Les cours du Collège de France, Thierry Coquen, chaire informatique et sciences numériques.
Cette leçon aura deux parties. Dans la première partie, je vais présenter preuve de normalisation. Dans la seconde partie, je vais finir donc cette première partie du cours en décrivant les relations entre ensemble et type. Comment décrire les ensembles en théorie des types. Alors, donc, dans la leçon précédente, nous avons montré le théorème de canonicité. Donc, si T est un terme clos de type entier, il existe un entier K tel que T soit égal à la valeur K bar, donc au codage de K en théorie des types. La preuve donc, peut être faite sans introduire une relation de réduction sur les termes. Donc, pour faire cette preuve, donc, j'ai mis au point donc, la définition de théorie des types et modèle de théorie des types. Donc comme théorie équationnelle avec quatre sortes, donc la sorte des contextes, la sorte des substitutions entre contextes, la sorte des types et la sorte des éléments d'un type donné. Donc j'ai donné donc l'analogie avec la théorie des anneaux. Donc de même que même si on est intéressé par l'anneau des polynômes, c'est intéressant d'avoir une théorie générale des anneaux. Donc ici, on est intéressé par le modèle des termes, qui est le modèle initial pour la notion de morphisme strict entre modèles. Mais il est intéressant donc, de développer une théorie générale des modèles de la théorie des types. Donc en particulier, ici, je vais utiliser les modèles ensemblistes et les modèles de Préfesseau. Et dans la deuxième partie donc, du cours, je présenterai les modèles d'univalence, de l'axiome d'univalence. Comme pour toute théorie équationnelle, essentiellement équationnelle, donc la description du modèle générique revient à décrire le modèle des termes. Donc c'est ici le modèle des termes. Et donc les propriétés de canonicité et de normalisation sont des propriétés du modèle initial. Donc c'est purement équationnel. La preuve de canonicité, donc, comme nous l'avons vu, peut être faite sans introduire une relation de réduction sur les termes. Et en fait, peut être vu donc comme une application de la méthode de construction de modèle par recollement le long d'un morphisme exact à gauche, donc qui était ce morphisme exact à gauche. Et l'essence de la preuve, c'est qu'on a toujours, quand on fait ce modèle de recollement le long d'un morphisme exact à gauche, on a toujours le morphisme de projection qui est strict. Et si on a le modèle initial, donc ce morphisme de projection va avoir une section qui est le morphisme initial. Alors cette preuve. Donc, ça va être important pour la preuve de normalisation, peut être vu en fait comme une formulation de la preuve de canonicité de Tate dans son papier de 1967, où l'on remplace la propriété de calculabilité par une structure de calculabilité. Donc ça, c'est un thème de la théorie des types, c'est de voir les preuves comme objets. Donc c'est tout à fait ce qui se passe dans cet argument. Et donc, on va, au lieu de voir le prédicat de calculabilité comme un ensemble de valeurs de vérité, on va admettre qu'il peut être un ensemble quelconque. Donc, ça va être une famille d'ensembles sur les termes clos d'un type. Et on va définir donc, quand est-ce qu'un environnement est calculable par induction sur le contexte. Qu'est-ce que c'est calculable au type produit, calculable au type sigma. Donc, on suit l'argument, la définition de calculabilité comme Tate le faisait, être calculable au type, à un type flèche, donc c'est envoyer un élément calculable sur un élément calculable. Donc ici, comme j'ai des preuves explicites, je suis explicite sur les preuves de calculabilité. Donc, une preuve de calculabilité à ce type-là, ça va être une fonction qui attend deux arguments. Le premier argument, c'est un terme, et le deuxième argument, c'est la preuve que ce terme est calculable. Et je peux définir, donc, de manière... je peux regarder... Donc, ça revient... faire cet argument revient à regarder ce qui se passe dans la preuve de calculabilité en étant explicite sur les preuves, sur cette preuve de calculabilité. Donc, par exemple, la preuve que lambda terme est calculable... Donc, ce qui sera écrit par ce terme-là, qui correspond donc à la preuve que le lambda b est calculable par induction en supposant que B, je sais que B est calculable, quand j'ai une preuve que B est calculable. Et de même, donc la preuve que l'application d'un terme calculable à un terme calculable est calculable, donc c'est la preuve que C appliqué à A est calculable, revient donc comme dans la preuve, donc je sais que C est calculable, et je l'applique à A et à la preuve que A est calculable. Et donc ce que je peux montrer, c'est que si j'ai un terme petit a dans ce contexte-là, alors A' va être une preuve que petit a est calculable. Et le fait d'organiser cette preuve comme une construction de modèle, donc ce modèle de recollement, va me permettre donc d'éviter d'avoir à... Donc en particulier, ça va être une preuve pour le, ça va être une preuve pour la convertibilité. Donc j'aurai automatiquement que si A est égal à B de type A, donc la preuve que A est calculable va être égale à la preuve que B est calculable dans le type A' de A. Et c'est donc ce fait-là, cette construction de modèle, qui remplace l'argument syntaxique de Church-Rosser, de confluence. Donc ça, c'était l'idée de Martinloff dans ce papier. Et donc, c'est ce que je viens de dire. Donc, on a remplacé la preuve de confluence par une sémantique et le fait donc, que la forme canonique peut être extraite de la sémantique. Et on peut voir ça comme une traduction directe, donc en remplaçant, en étant explicite sur les preuves, des intuitions de Gödel, qui étaient que donc, de cette définition des fonctions calculables, donc au type des entiers, être calculable, c'est être un entier naturel, et au type de fonction, c'est envoyer un objet calculable sur un objet calculable. Et donc ça, c'est ce que Gödel écrivait pour une conférence donc, en 1941, donc c'était important, au niveau épistémologique, c'était important que cette notion de calculabilité soit directement comprise. Donc. Et Gödel, en fait, donc, a vraiment lutté pour être sûr qu'on peut voir cette preuve-là, au point de vue épistémologique, comme une preuve de cohérence. Donc il a fait cette conférence en 1940, En 1958, donc, il a écrit le papier Dialectica, et dans les années 60, donc, Bernays a essayé de convaincre Gödel de faire une traduction en anglais de son papier, mais Gödel n'a jamais été vraiment satisfait sur cette traduction, et cette traduction n'a pas été publiée par Gödel, cette traduction en anglais. Donc ça vient du fait, donc c'est vraiment et c'est un phénomène analogue, donc, comme on a vu, en théorie des types, c'est est-ce qu'on peut voir cette preuve-là comme un argument de cohérence pour la théorie des types. Donc au niveau technique, donc le fait qu'on peut voir cet argument de canonicité comme un cas particulier donc, de construction de modèles de recollement me semble répondre donc, aux objections sur la bêta-état-conversion donc, qui sont discutées dans le papier suivant de Martinloff. Donc dans ce papier, Martinloff essaye de dire que donc il ne faut pas ajouter état-conversion à la théorie des types et même bêta-conversion sous la forme forte parce qu'en fait, quand on regarde ce qui se passe dans la preuve de canonicité, on doit utiliser l'extensionnalité pour les fonctions dans la métathéorie. Et en fait, ce qui se passe ici, c'est qu'on peut voir cette preuve est en fait un argument de recollement de modèle. Le modèle n'a pas à être le modèle ensembliste, il marque pour un modèle quelconque. Donc en fait, quand on montre que si A est égal à B, alors A' est égal à B', dans la métathéorie, on n'utilise jamais en fait, l'égalité extensionnelle sur les fonctions. On utilise juste que donc la métathéorie, la théorie des ensembles, a la bêta-état-conversion. Alors, donc cette preuve est formellement analogue à la transformation de paramétricité. Donc la transformation de paramétricité, donc ça j'ai décrit de manière purement syntaxique. Donc on peut voir à chaque type A, on associe un prédicat donc A', donc une fonction de A dans l'univers telle que si petit a est de type grand A, alors petit A' est de type A' de A. Et il est tout à fait remarquable donc que cette transformation marche avec un type de tous les types, donc avec U de point U. Donc là, formellement, on peut définir U' comme étant U' de X et X flèche U. Donc U' va être défini comme va être de type U flèche U et va être définie comme lambda x, x flèche U. D'accord ? Donc ça, c'est la définition formelle du prédicat de paramétricité qui marche tout à fait avec la, si on part d'un type avec un type de tous les types. Et c'est la même chose, donc l'argument de recollement donc, marche tout à fait, prouve la canonicité avec une métathéorie qui a un type de tous les types. Donc c'est ce qui se passait dans le papier de Gödel. Donc ce qui se passe là, donc, c'est U', et en fait U' va être de type U' de U. Donc U est de type U, on doit avoir U' de type U' de U, et c'est vraiment ce qui se passe, donc purement formellement, donc c'est remarquable que cette preuve marche. Et l'espoir de Martynov, donc, c'était d'exploiter cette circularité pour représenter la notion de catégorie. Donc, dans son papier, où il présente une théorie des types avec un type de tous les types, il donne comme application représenter la catégorie de toutes les catégories. Alors, à cause du paradoxe de Girard, donc, Martynov remplace U de point U par une stratification des univers. Et ceci, donc, si on pense aux propositions comme type, ceci correspond à la stratification des propositions donc introduite par Russell. Mais ce système donc ne peut pas être utilisé en pratique. Donc le système que j'ai présenté avec une hiérarchie d'univers, en fait, quand on essaye de l'utiliser en pratique, donc ça marche pas, parce que si on a ce système-là, chaque fois qu'on a une preuve en utilisant l'univers U0, on veut la même preuve pour l'univers U1, on va être obligé de la dupliquer. Donc en pratique, c'est tout à fait impossible à faire. Mais en fait, donc, c'est ce qui faisait Wovowski donc, à la main dans ses premiers essais de formalisation. Il avait un fichier pour, avec U0 et il le copiait ce fichier en remplaçant U0 par U1. Donc on voudrait avoir des preuves polymorphes dans les univers. Donc Wovowski a réfléchi là-dessus. Il a proposé donc, un système polymorphique dans les univers qu'on a essayé de préciser donc, dans ce papier. Et il y a eu beaucoup de travaux, donc par, entre autres par Mathieu Sozo et Nicolas Tabarot, donc qui a essayé de préciser cette notion d'univers polymorphe, et c'est maintenant ce qui est implémenté dans les systèmes Koch et Lin. Alors en mathématiques, la notion d'univers n'est plus mentionnée explicitement. Donc elle était mentionnée explicitement dans les années 60, mais petit à petit, donc les mathématiciens ne mentionne plus explicitement la notion d'univers. Donc ça, c'est un exemple typique. Donc l'introduction de ce livre. Donc ils disent qu'on ne va pas faire attention à cette notion d'univers explicitement pour des raisons de lisibilité. Donc quand on veut implémenter les preuves, donc là, on n'a pas le choix. On doit être explicite même sur cette notion d'univers. Et en fait, donc avec la théorie des types avec univalence, nécessite beaucoup plus l'utilisation des univers que sans l'univalence. Donc Mike Shulman en fait, donc, donne un exemple d'un argument incorrect si on oublie cette hiérarchie. Donc si on essaye de. Donc l'idée a priori, donc l'idée qui était l'idée de Mike Shulman, c'est qu'on va faire la preuve comme si on avait type de point type, et puis on va bien voir en fait, on va voir intuitivement si cette preuve est circulaire ou pas. Et en fait, donc, il donne un exemple d'un argument incorrect si on oublie cette hiérarchie. Et donc, il pense, lui, son expérience, c'est qu'il est essentiel d'être explicite sur cette hiérarchie d'univers. Alors, en mathématiques aussi, donc, un argument contre l'utilisation des univers, c'est que cette notion est très forte au niveau théorie de la démonstration. Donc, l'existence d'univers au sens de Grothendieck, n'est pas prouvable en théorie des ensembles. Donc ça, c'est pourquoi les mathématiciens aussi essayent d'éviter les univers. Donc par exemple, dans le projet STAX, ils font appel à une technique pour faire donc, des univers locaux et ne pas avoir à utiliser un système plus fort que la théorie des ensembles ZF. Donc comme on a vu, donc, en théorie des types, au moins donc, 100 types des propositions, cette théorie des types, même avec une hiérarchie d'univers, est strictement plus faible que l'arithmétique du second ordre. Donc cet argument-là contre l'utilisation des univers n'existe pas pour la théorie des types, même la théorie des types avec univalence. Donc en théorie des types aussi, la notion d'univers est utilisée pour représenter les propositions, donc surtout dans un cadre prédicatif. Mais même, donc si on a un type des propositions comme dans le système ROC ou dans le système LIN, là on a moins besoin d'univers a priori. Donc par exemple la preuve du théorème des quatre couleurs ne fait pas appel à la notion d'univers, donc juste la notion de proposition. Mais même dans ce cas, donc pour le système LIN, la notion d'univers doit être utilisée pour former des types de structures. Et là, il faut faire très attention. Donc, quand on forme des types de structures comme la catégorie des groupes, a priori, donc cette catégorie va dépendre de l'univers. Donc ça, c'est un théorème qui a été montré formellement par Martin Escardot. Donc si on considère la théorie des groupes dans un univers U0, et puis donc on le plonge dans la théorie des groupes dans l'univers U1, donc ça, ce plongement n'est pas une équivalence de catégorie, donc, ce dont on peut s'attendre, ce qui a été prouvé formellement, alors que la théorie des groupes de présentation finie donc, ne dépend pas de l'univers. Et donc avec ça, c'est aussi avec l'univalence. Donc si on prend les groupes maintenant de présentation finie, on va avoir une finement présentée. Donc maintenant, ça va être une équivalence. Et donc, avec l'univalence, on va pouvoir. Ces deux catégories vont avoir les mêmes propriétés. Alors, le problème avec la propriété de canonicité, donc, c'est qu'elle ne suffit pas pour montrer que l'égalité est décidable dans le modèle initial. Et elle ne suffit pas donc, pour montrer que le typage est décidable, ou les propriétés donc, essentielles, comme le fait que la bêta-réduction préserve le type. La propriété de canonicité n'est pas suffisante pour cela. Donc pour cela, on a besoin d'une propriété plus forte que la canonicité, qui est la propriété de normalisation. Et donc ça, c'était tout à fait ce qui se passait dans le papier de Tate. Donc Tate commence par montrer la propriété de canonicité, mais ensuite, donc motivé par Gödel, qui insistait sur le fait que l'égalité devait être décidable à tous les types, pas seulement le type des entiers, Tate essaye de montrer donc cette propriété de normalisation, et il le montre donc en raffinant son argument de canonicité. Et pour ça, donc, il a besoin d'introduire, il a besoin du fait que tous les types sont non vides, et à la place, donc, et c'est ce qui est fait aussi dans les preuves. Donc ça, c'est une référence qui contient une présentation très claire de cette preuve de normalisation. Donc à la place d'introduire ces termes zéro, on va introduire une notion de termes neutres et de termes normaux. Donc en fait, c'est ce qui est naturel, parce que donc on veut montrer la normalisation, on veut montrer que tout terme est égal à un terme normal, est convertible à un terme normal. Mais pour définir la notion de terme normal, on a besoin de définir la notion de terme neutre, donc on a besoin d'une définition simultanée des termes neutres et des termes normaux. D'accord. Et donc, une fois qu'on a introduit cette notion-là, en fait, Tate, pour affiner sa preuve de canonicité, et montrer une preuve de normalisation. Donc, le point de cet exposé, donc, c'est de montrer, d'expliquer comment, en remplaçant donc, des propriétés par des structures, on va pouvoir suivre cette preuve de Tate, ce raffinement de la preuve de Tate, pour montrer la normalisation en théorie des types. Alors, donc la preuve de Tate, en utilisant introduction des termes normaux et des termes neutres. Donc les termes neutres, donc intuitivement, c'est les termes qui bloquent la réduction. Donc un terme neutre, c'est une variable, ou un terme neutre appliqué à un terme normal. Et un terme normal, donc c'est un terme neutre, ou un terme abstraction, formé par l'abstraction. Alors, la preuve que tous les termes sont normalisables donc, suit la preuve de canonicité, mais a besoin donc, de ce lemme qui est montré par induction sur le type A, qui est que si un terme est calculable, alors le terme est normalisable, et si un terme est neutre, alors il est calculable. Et ceci est montré par induction sur le type A. Et on définit donc comment définir calculable. Pour le type de base, ça va être défini comme être normalisable. Et pour le type de fonction, comme pour la preuve de canonicité, c'est envoyer un terme calculable sur un terme calculable. On montre alors que chaque terme est calculable et donc normalisable par, par le point 1, par induction sur le terme. Donc ça, c'est une preuve très très élégante de normalisation que Tait a fait. Et, donc Howard, donc dans la, le papier dont j'ai donné la référence dans la leçon précédente, dit que la première fois qu'il a vu cette preuve, que Tait lui a expliqué cette preuve, elle était tellement simple qu'il a, il a cru qu'il y avait une erreur dans la preuve. Donc c'est, cette preuve est, est remarquable parce qu'elle est très proche de la canonicité. Alors, avec les types dépendants, il y a un problème technique qui est de comment on va pouvoir définir cette notion de terme neutre et de terme normal. Donc le, la question technique, c'est qu'il n'est pas clair comment définir les termes neutres indépendamment du contexte dans lequel ils sont valides. Et donc ça, techniquement, il y a un problème. Donc Martin Löf, en 1972, suggère de résoudre ce problème en ajoutant des constantes pour chaque type. Donc on va étendre la théorie des types, on part de, du modèle initial et on va rajouter des constantes. Donc ça, c'est ce qui se passe aussi dans certaines versions de la logique du premier ordre. Pour montrer la complétude, on commence par étendre le langage en rajoutant des symboles de constantes au langage. Alors techniquement, donc, comme en logique du premier ordre, en fait, quand on rajoute des constantes pour, dans la preuve de Henkin du théorème de complétude, on doit itérer cette addition. Parce que donc, si on rajoute des constantes pour chaque type clos, on veut que chaque type ait un élément, soit non vide, on va fabriquer des nouveaux types, parce qu'on a des types dépendants, et donc on doit rajouter une nouvelle constante pour les nouveaux types qu'on a créés. Alors, cette approche-là de rajouter des constantes marche bien si on présente la théorie des types avec une relation de réduction, comme Martin Löf le faisait en 1972. Elle ne marche pas, donc avec cette présentation purement équationnelle de la théorie des types, qui est... Donc, dans le papier de 73, donc Martin Löf ne peut pas suivre cette approche et en fait dit qu'il va d'abord présenter une version plus simple en ne considérant que des termes clos, mais de, ne dit pas comment résoudre ce problème de, des termes vides. Donc, comment prouver que l'addition constante est une extension conservative? Donc, ça, c'est un problème technique. Et ce problème technique donc, peut être résolu en, en utilisant un modèle de Préfessot. Donc, ça, c'est une idée qui est. Qui est naturel, qui est une manière donc, de résoudre ce problème des types vides, c'est qu'au lieu de rajouter des constantes, on va se placer donc, sur un modèle de Préfessot sur les contextes, mais avec une relation différente de substitution, on ne va considérer que des renommages. Donc on va considérer une, ce que je vais noter comme ça. Donc c'est soit on ne considère que des substitutions qui sont des affaiblissements ou des renommages. Et donc, ça, ce problème, cette introduction de ce modèle de Préfessot résout ce problème d'addition constante. Donc, et la première fois que je l'ai formulé, c'était juste pour donner une version alternative de l'addition de constantes. Donc, je trouvais qu'ajouter un nombre infini de constantes n'était pas très naturel. Et qu'il était plus naturel de considérer ce modèle de Préfessot, modèle de Kripke, sur les contextes. Mais en fait, donc, ce qui m'a surpris, c'est que cette approche en fait, résout ce problème de conservativité. Donc on va se placer dans un modèle plus grand, mais qui est clairement conservatif au niveau de la théorie équationnelle. Et ceci a été vraiment étudié donc, en détail par un papier remarquable de... Donc Thorsten Altenkirch, Martin Hoffmann, Streicher, qui n'est pas publié, donc qui montre ce qui applique cette approche-là pour donner une preuve de normalisation pour le système F. Et il donne dans cette note, ils font une connexion entre cette preuve-là, ce qui se passe dans cette preuve, et la notion d'ensemble nominal. et comme je l'ai dit, donc en fait, ce qui a débloqué donc, la preuve de normalisation du système F, c'était l'introduction de cette notion de candidat de calculabilité. Mais en fait, cette notion-là donc, est très utile. Et c'est vraiment cette notion qui est, qu'on peut voir donc, quand on fait ce modèle de recollement de modèle de type dépendant. Alors, donc, cette méthode d'utiliser les contextes comme monde possible pour un modèle de Kripke donc, a été aussi... étudié dans ce papier-là de Arne Ranta. Et donc, je vais considérer, je vais me placer sur le modèle initial, je vais considérer les contextes, et je vais former donc, la catégorie C, ça va être la catégorie des renommages sur cette catégorie de contexte. Donc, intuitivement, je vais me restreindre aux substitutions qui sont juste des renommages. Et en fait, cette notion de substitution peut être décrite de manière purement syntaxique. Alors, c'est exactement à la place des renommages, je pourrais considérer les affaiblissements. Et ça, c'est exactement tout à fait analogue à ce qui se passe dans la théorie des ensembles nominaux, où on a le choix entre inclusion et renommage. Donc là, il y a une version des ensembles nominaux avec renommage qui a été considérée par Gabay et Martin Hoffman. De manière un peu curieuse, il y a le même choix donc, qui intervient. Quand on a étudié les modèles effectifs de l'univalence, on a donné une version nominale des ensembles cubiques de CAM. Et ici, il y a le même choix. On a le choix aussi entre inclusion et renommage. Donc en fait, le modèle que je vais présenter maintenant de Préfesso peut être vu en fait est tout à fait analogue au modèle de Préfesso qu'on va considérer pour les modèles de l'univalence. Et en fait, techniquement, est plus compliqué. Comme le modèle que je vais présenter est techniquement compliqué, donc il faut avoir une vision directrice derrière ce modèle. Et donc la vision directrice derrière ce modèle, c'est de suivre la preuve de Tate telle qu'elle est formulée dans le papier de 67, mais de remplacer donc, les propriétés par des structures. Et c'est, si on a cette idée en tête, on écrit cette preuve de normalisation. Une fois qu'on a une catégorie C, on peut considérer le modèle de la théorie des types sur cette catégorie C. Donc je rappelle, un contexte est un préfesso. On peut définir ce que c'est qu'un type sur un contexte, sur un préfesso. On peut définir un élément donc, dans ce modèle de préfesso. Et comme il a été remarqué par Martin Hoffman en 95, dans ce modèle de préfesso, on a une interprétation des univers. Donc on peut définir aussi une interprétation des univers. On peut définir sur ce modèle des préfesso, je peux définir un préfesso particulier qui est le préfesso des variables. Donc je vais définir un ensemble pour un contexte gamma et un type A dans le contexte gamma. Je vais définir un ensemble var gamma A. Donc c'est l'ensemble intuitivement, donc il y a le code pour les variables de type A au contexte gamma. Donc la définition est standard. Donc si j'ai B convertible à AP, je vais dire que donc j'ai un code pour la variable, la dernière variable du contexte, et j'introduis donc un code pour cette variable-là dans ce contexte-là. Et une fois que donc j'ai défini cette notion de variable, je peux définir de manière précise donc, ce qu'est un codage pour un renommage entre deux contextes. Donc intuitivement, c'est une substitution où je ne considère que des variables dans cette substitution. Donc je peux définir un codage syntaxique pour le renommage identique et pour le renommage qui correspond à la projection. Donc la collection d'ensemble type delta définit un préfesso. Donc je peux définir un nouveau préfesso sur cette catégorie C en disant qu'au niveau delta, donc je prends l'ensemble des types dans ce nouveau delta. Et chaque j'ai une opération de substitution qui est cette opération là. Donc si j'ai un morphisme syntaxique alpha de delta 1 dans delta, et si j'ai un type dans delta, donc je peux définir A alpha qui va être un type dans delta 1. Donc j'ai une opération de restriction. Et je définis A alpha comme étant A où j'applique la substitution qui est codée par alpha. Donc j'obtiens j'obtiens ainsi un préfesso sur cette catégorie C. On peut vérifier que donc, c'est un préfesso. Et dans ce modèle de préfesso sur C, on a un type comme ça. Alors pour chaque type, on a une famille de type LM de A qui est définie comme ça. Et on peut définir aussi, donc comme on considère que des renommages, je vais définir un nouveau préfaisceau qui maintenant va être le donc les codages. Donc ça c'est l'ensemble des expressions syntaxiques qui codent les types en forme normale. Et donc ça va bien être un préfaisceau sur cette catégorie parce que je ne considère que des renommages. Donc les termes, les types en forme normaux sont clos par renommage. Donc ça c'est j'ai voulu faire un transparent où je donne la définition précise de quels sont les termes normaux et quels sont les types normaux. Et comme dans la preuve de Tait, quand on veut définir quels sont les termes normaux, on doit définir en même temps quels sont les termes neutres. Donc en même temps, on définit qu'est-ce que c'est qu'une expression syntaxique pour un terme neutre d'un type donné. On peut définir une relation sur les renommages. Donc je peux définir une relation de composition. Et un point sur lequel je veux insister, c'est que cette catégorie, donc je n'ai pas à faire appel à une théorie des ensembles très forte comme métathéorie pour définir cette catégorie de préfaisceaux. En fait. Donc cette catégorie, c'est une catégorie stricte où les objets sont des objets syntaxiques. Et donc, comme je l'ai dit, comme je ne considère que des renommages, je peux définir des opérations de substitution sur les types en forme normale et les opérations de substitution sur les termes en forme normale. Et à toute expression syntaxique, donc un code d'un élément d'un type donné, je peux associer sa valeur, donc qui va être maintenant un élément dans le modèle initial. Donc ça, c'est juste ce qui techniquement doit être mis au point pour pouvoir suivre l'argument de Tait. Mais une fois qu'on a ça, donc je peux considérer ce morphisme exact à gauche, qui est tout à fait similaire au morphisme exact à gauche dont j'ai besoin pour montrer la propriété de canonicité. Donc je le rappelle, donc ce morphisme exact à gauche que je considérais pour la preuve de canonicité, c'était le morphisme qui a un contexte gamma associé à l'ensemble des environnements clos pour ce contexte gamma. Donc ça, on peut vérifier que c'est un morphisme exact à gauche de modèle. Donc là, de manière tout à fait similaire, je vais considérer donc un morphisme exact à gauche, mais maintenant dans ce modèle de préfaisceau. Et donc c'est ce morphisme-là qui est défini de cette manière-là. Donc au niveau delta, je vais considérer toutes les substitutions de delta dans gamma. Donc l'intuition derrière ça, c'est que maintenant j'ai le droit, comme je veux considérer des termes normaux et des termes neutres, je veux considérer des termes ouverts. Et c'est exactement ce que me permet ce modèle de préfaisseau. Donc je remplace 1, je ne considérais que des termes clos, là j'ai accès aux termes ouverts. Et c'est ce que me permet ce modèle de préfaisseau. Alors on peut vérifier que quand je définis ce préfaisseau psi del gamma, donc psi définit un morphisme exact à gauche. Et donc comme je l'ai dit, donc ça permet l'introduction d'environnements ouverts au lieu de seulement considérer des environnements clos. Donc intuitivement, je pourrais toujours introduire une variable en plus à chaque moment dans le raisonnement. C'est exactement ce que permet ce modèle de Kripke. Donc comme je l'ai dit, dans ce modèle, on peut définir les types en forme normale, on peut définir les éléments en forme normale, et en fait, donc, ce théorème de normalisation va être représenté par le théorème suivant. C'est que dans ce modèle, donc, les applications qui ont un code d'un type en forme normale associent sa valeur dans le modèle initial et à un terme en forme normale associent sa valeur sont en fait des isomorphismes. Donc en fait, dans le modèle initial, il y a un isomorphisme entre les types qui sont représentés par des expressions qui ne sont pas forcément en forme normale, mais en fait, ce type-là est isomorphe à ce type S qui ne représente que des expressions en forme normale. Donc, un corollaire de ce théorème, c'est que dans le modèle des termes, ces ensembles type gamma et LM gamma A ont une inégalité décidable. Donc, ce qui est essentiel, ce qui est vraiment, c'était le point sur lequel insistait Gödel, c'est que l'égalité devait être décidable à tous les types. Et c'est ce qui se passe là, dans ce modèle-là. Alors, utiliser ce modèle, donc, comme je l'ai dit, donc, ça résout le problème des types vides. Donc, c'est l'intuition que dans ce modèle de Kripke, chaque fois dans le raisonnement, je vais pouvoir introduire une variable d'un type donné. Et ceci est valable même pour un type vide, donc pour le type PXX, donc qui est vide. En fait, dans ce modèle-là, je vais pouvoir introduire une variable de ce type-là. Alors, donc si je regarde en fait la preuve de Tate, de normalisation, donc cette preuve-là avait ce lemme sur les termes neutres et les termes normales. Donc en fait, le modèle de normalisation n'est pas strictement le modèle de recollement, c'est une variation de ce modèle-là. Donc c'est que je dois faire intervenir, je dois dire en quel sens ce prédicat de calculabilité permet d'extraire un terme en forme normale et pas. Donc ceci donne un nouveau modèle de la théorie des types, qui est le modèle de normalisation. Donc techniquement, c'est le modèle suivant, où je, en plus, donc pour la preuve de canonicité, j'avais juste un prédicat ou une structure de calculabilité. Donc là, en plus, je dois avoir une structure qui dit, dans la preuve de Tate, c'était que tout terme calculable est normalisable et que tout terme neutre est calculable. Donc là, ça va être représenté par des fonctions dans ce modèle de Préfesseau. La première fonction va me dire que si j'ai une preuve que le U est calculable, alors en fait, U est représenté par un élément en forme normale. Donc ça, c'est ce type-là. Ce type-là, c'est l'expression, le type des expressions, l'ensemble des expressions syntaxiques de ce type-là qui sont égales à U, dont l'interprétation est égale à U. Donc ça dit exactement, ce type-là exprime exactement, donc en remplaçant propriété par structure, exprime que tout terme calculable est normalisable. Et cette fonction-là me dit que tout terme neutre est calculable. Donc tout terme neutre est calculable. Donc, et cette structure-là donc, intervient naturellement quand on veut transcrire la preuve de Tate pour une preuve en remplaçant propriété par structure. Et cette variation intervient donc dans le papier sur la normalisation du système F que j'ai cité, donc de 95. C'est exactement la même structure. Et là, donc, ce qui est remarquable, c'est que on peut définir l'interprétation des univers. Et donc, on peut définir U', qu'est-ce que être calculable au type X. Et donc, ça va être un ensemble. Donc, parce que maintenant, donc, j'ai remplacé propriété par structure. Donc, U' de X va être un ensemble. Et de manière naturelle, donc, ça va être un ensemble de quadruplets qui code le fait que j'ai. Donc ça me dit que X0, c'est une forme normale pour le type X. Ça me dit que tout terme calculable est normalisable. Ça me dit que tout terme neutre est calculable. Et donc, ce qui est élégant donc, techniquement, c'est qu'on peut vraiment, une fois qu'on a défini ce prédicat U'n, on peut définir les fonctions qui montrent qu'au niveau un, tout type calculable est normalisable. Donc c'est cette fonction-là. Et au niveau un, tout type neutre est calculable. Donc on doit définir, pour un type neutre K, on doit définir une structure de calculabilité, et c'est possible de le faire de manière techniquement simple. Et en fait, donc ça c'est ce qui se passe dans cette preuve-là. Donc si on revient donc, au papier de 71 de Martinloff, qui montrait la normalisation avec type de point-type, il avait un phénomène tout à fait analogue. Donc il était capable de définir ces fonctions-là. On peut voir l'essence de ces définitions-là donc dans la preuve de normalisation. Et cette définition donc, provient de ce papier. Alors de manière externe, on peut regarder ce qui se passe. Donc ça c'est une preuve interne dans ce modèle de Préfesseau. Et donc on peut regarder de manière externe qu'est-ce que ça veut dire. Donc par exemple, gamma prime, donc qui dit qu'un environnement est calculable. Alors donc c'est une famille d'ensemble dans le modèle de Préfesseau. Donc en fait, un Préfesseau, une famille d'ensemble dans le modèle de Préfesseau, ça va être en fait de manière externe, ça va être une famille d'ensemble gamma prime de delta rho pour chaque rho de type substitution de delta gamma. avec une flèche de restriction. Donc c'est une structure assez compliquée. Donc là, le fait d'avoir des modèles de la théorie des types dépendants dans les modèles de Préfaisceau permet de simplifier techniquement cette preuve-là. Mais ça, c'était aussi quelque chose qui était remarqué dans le papier de 95 sur la preuve de normalisation du système F. Donc c'est cette idée d'utiliser donc ensemble nominaux pour la théorie des types, formulée avec des modèles de Préfaisceau. Donc là, on peut, une fois qu'on on regarde de manière externe ce qui se passe, on peut montrer que l'identité est calculable. Donc l'identité, donc, c'est la flèche de gamma dans gamma. Donc c'est exactement comme dans la preuve de Tate, en fait. Donc il n'y a pas de. Dans la preuve de Tate, à un moment, on doit montrer que la substitution identique n'a que des termes calculables. Donc ça, c'est parce que la substitution identique, donc, c'est juste des variables. Les variables sont les termes neutres et les termes neutres sont calculables. Donc on s'attend à ce que la substitution identique soit calculable. Et on peut enfin donc, définir la forme normale, donc, qui va être définie, comme je l'ai dit. Donc la forme normale va être obtenue comme une fonction de la sémantique d'un terme dans ce modèle de normalisation. Donc la sémantique de terme A va être donnée par A'. Donc A', c'est la preuve que le terme est calculable. Et une fois que le terme est calculable, donc on peut extraire de cette preuve-là la preuve que le terme A est égal à un terme en forme normale. Donc c'est cette fonction-là, alpha A, que je calcule par induction sur le type grand A. Donc je peux définir cette fonction de forme normale et j'ai que cette fonction de forme normale est un codage du terme A. Et on peut montrer donc cette fonction de forme normale sur les types commute avec le produit dépendant. Donc la forme normale de produit dépendant va être égale à ça. Donc on obtient que chaque ensemble des termes du modèle initial a une égalité décidable. Donc si A est égal à B, alors donc là c'est la propriété de modèle, c'est que si A est égal à B, alors A' est égal à B'. Et donc comme NF de A est obtenu à partir de A', NF de A va être égal à NF de B. Donc c'est ça qui remplace la preuve de confluence. Et c'était ça donc l'intuition fondamentale donc, qui était derrière le papier de Martynov et de l'idée qui revient à Peter Hancock, en fait, de remplacer la preuve de confluence par un argument sémantique. Et réciproquement, donc, si NF de A est égal à NF de B, alors comme A est égal, NF de A est un codage de A, donc le codage de A va être le même que le codage de B, donc A va être convertible à B. Et en fait, on peut montrer que cette fonction NF est une fonction, est un inverse de la fonction d'évaluation. Et voici donc l'argument de Peter Hancock pour montrer que le produit dépendant est une fonction injectif. Donc c'est l'argument suivant. Donc si j'ai pi de AB égale pi de A1B1, donc a priori, donc ça c'est un problème pour le modèle des termes, c'est de montrer que cette opération est injective. Et donc l'argument suit donc l'argument par preuve de confluence, c'est regarde la forme normale. Comme la forme normale commute avec le produit, je vais avoir que la forme normale de A1 va être égale à la forme normale de A, la forme normale de B1 va être égale à la forme normale de B, et je peux en conclure que A est convertible à A1 et B est convertible à B1. Et donc ça, c'est la description, le commentaire sur cette preuve-là qui est faite dans le papier de Martynov. Donc on a remplacé un argument de confluence syntaxique par une preuve sémantique. Alors ce modèle donc, est tout à fait rapproché donc, des implémentations d'évaluation des termes ouverts qui reposent sur une machine à environnement, donc qui remonte aux travaux de Landin. Donc ça c'est un papier qui décrit pour les types dépendants donc, comment représenter un algorithme qui teste la conversion pour les termes et qui teste le typage. Donc là, ça revient à l'introduction aussi explicite de ces termes neutres qui sont utilisés dans cet argument-là. Et c'était aussi donc, une motivation de ce papier-là. C'était pour avoir une implémentation efficace de cet algorithme de conversion. Donc cet argument est non seulement utile parce que c'est un argument sémantique, mais aussi il est en fait proche de ce qu'on veut faire si on veut un algorithme efficace de conversion pour la théorie des types. Alors, ce commentaire-là est aussi à rapprocher donc, du commentaire de Martin Loff sur sa preuve de normalisation. C'est que, si on regarde ce qui se passe dans cette preuve-là, ou la preuve de canonicité, en fait, donc, si on comprend les règles de la théorie des types au niveau constructif, on n'a pas besoin de cet argument-là, parce qu'il est clair que tout ce qu'on fait en théorie des types est constructif. Donc, toute fonction qu'on va représenter dans la théorie des types va être intuitivement calculable, directement calculable. Donc, en fait, on a, pour cet argument de canonicité ou du fait que toute fonction représentable en théorie des types est calculable, on peut dire qu'on n'a pas besoin de cet argument de canonicité si on comprend directement les règles de la théorie des types. Donc, ça, c'est à rapprocher au commentaire de Gödel sur son quand il commentait son modèle Dialectica. Alors cette méthode d'utiliser des structures de calculabilité est vraiment modulaire. Donc elle s'étend si on veut montrer la normalisation pour type de données ou avec des définitions inductives indexées, donc ça c'est très utile. On peut suivre cette méthode-là. Elle s'étend si on ajoute un type de proposition pouf irrelevant, ce qui est la théorie utilisée par Lin. Donc on peut montrer la normalisation pour ce système-là. Plus récemment, elle a été utilisée donc, pour une version de la théorie des types qui donne une interprétation calculatoire à l'univalence. Et on peut montrer la normalisation pour cette théorie-là en suivant cette preuve. Alors, elle est très utile aussi pour trouver quand des systèmes ne sont pas normalisables. Donc, parce qu'en fait, donc, techniquement, elle a l'air compliquée, mais en fait, si on la suit, donc, c'est juste d'essayer de définir des prédicats de calculabilité en tenant compte des termes neutres et des termes normaux. Donc, on peut étudier des extensions de la théorie des types. Donc, ça, c'est une extension qui avait été proposée par Benjamin Werner, qui est représenté dans Lin, en fait, et qui est un raffinement. On essaie de raffiner l'élimination pour l'égalité en essayant de représenter l'égalité comme proof irrelevant, de manière proof irrelevant. Et donc, si on essaye de suivre cette preuve-là et de montrer la normalisation pour cette preuve, donc il n'y a pas de problème pour montrer la canonicité, en essayant de montrer que cette opération J est calculable, donc là il n'y a pas de problème, mais on voit qu'il y a un problème donc quand on essaye d'appliquer cette méthode pour montrer qu'il y a une normalisation. Et donc c'est de cette manière qu'on a trouvé que cette extension-là n'est pas normalisable. Donc en essayant de suivre cette preuve, et cette preuve ne marche pas, quand cette preuve ne marche pas, c'est un signe que en fait cette extension-là n'était pas normalisable. Une loi similaire a été ajoutée dans le système Lin. Très bien, donc ça termine ce que je voulais dire sur la preuve de normalisation. Donc je tenais à présenter cette preuve en détail, pas dans tous les détails, parce que donc propriété de normalisation est une propriété conceptuellement essentielle pour la théorie des types, puisque c'est cette propriété-là qui permet de montrer que ce jugement de typage est décidable. Et donc, cet argument conceptuellement qui justifie l'utilisation de la théorie des types pour vérifier les preuves sur machine. Très bien. Donc, pour finir donc cet exposé, cette leçon, je vais essayer de présenter, donc maintenant c'est un sujet différent, c'est les rapports entre la théorie des ensembles et la théorie des types. Et en fait, donc, comment représenter les ensembles en théorie des types. Donc, pour commencer ces rapports, donc, je vais commencer par une version de un paradoxe de Russell, qui m'a été communiqué par Debrun. Donc c'était le soir de ma thèse. Donc on discutait des paradoxes et Debrun m'a dit qu'en fait il avait une version très concrète du paradoxe de Russell, qui était le paradoxe des arbres. Donc c'est qu'est-ce qu'un arbre ? Donc un arbre, c'est obtenu en prenant une famille d'arbres donnée. Si on a une famille d'arbres, comment former un nouvel arbre ? C'est qu'on rajoute une racine et on prend la collection de tous les arbres. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'un arbre intuitivement ? Donc c'est... disons qu'un arbre est bon. Donc quand est-ce qu'un arbre est bon ? C'est que cet arbre-là est bon si l'arbre que j'ai formé ici est différent de tous ces sous-arbres immédiats. Donc un arbre est bon, c'est T est différent de TI pour chaque I. D'accord ? Alors, donc ça c'est la définition. Donc là est le point de Brun, c'est-à-dire que si je prends l'arbre obtenu en rassemblant la collection de tous les arbres qui sont bons, cet arbre-là doit être bon. Alors en effet, donc si tous les arbres TI sont bons, si je suppose que TI est bon, donc cet arbre T ne peut pas être égal à TI, parce que si T est égal à TI, donc T doit être bon. Okay. Mais être bon, c'est être différent de chaque TI. Donc T ne peut pas être égal à un TI. Une contradiction. Donc T est bon lui-même, mais si T est bon, il doit apparaître dans cette énumération. Et donc, si T est bon, il existe, comme j'ai énuméré tous les TI, il existe un I tel que T est égal à TI. Très bien. Donc ça, c'est la version de Debrun du paradoxe de Russell. Et c'est une version donc très concrète. Je n'ai pas besoin de parler d'ensemble. J'ai juste parlé besoin d'arbres. Et ça, ça montre qu'il n'y a pas d'arbre. On a un paradoxe comme ça. Et donc l'intérêt de cette version de Debrun, pour moi, c'était qu'il était direct donc, de représenter ce paradoxe en théorie des types avec un type de tous les types. Donc là, ça donne une nouvelle version du paradoxe de Girard. Mais, donc, contrairement au paradoxe de Girard qui utilise juste le produit dépendant et un type de tous les types, donc là on a besoin d'une version de la théorie des types qui est un peu plus sophistiquée. On a besoin non seulement du produit dépendant, on a aussi besoin de la somme disjointe, la somme sigma, et on a besoin d'introduire ce type de données pour les arbres. Donc qu'est-ce qu'un arbre en théorie des types ? J'introduis le type V de tous les arbres avec seulement ce constructeur-là. Donc, si j'ai une famille de types, donc X flèche V, une famille d'arbres, je peux les mettre ensemble avec sup et j'obtiens un nouvel arbre. Donc, c'était sup de TI. Okay. Et pour représenter ce paradoxe, en fait, on n'a pas besoin de la récursion sur ce type V, on a juste besoin d'un opérateur d'analyse de cas. Donc, alors en fait, donc ça c'était on peut représenter le paradoxe de Debrun de cette manière-là en théorie des types. C'est qu'on va définir quand est-ce qu'un type est bon. Donc, si j'ai un arbre, quand est-ce qu'un arbre est bon, pardon. Si j'ai un arbre comme ça, quand est-ce qu'il est bon, ça va être exactement que pour tout x dans x, cet arbre-là n'est pas égal à l'arbre f de x. Okay, et je peux définir, si j'ai un type de tous les types, je peux définir l'égalité en utilisant l'égalité de Leibniz. Donc je peux représenter la notion d'être bon, et je peux donc représenter maintenant la collection, cet argument-là qui était informel, donc la collection de tous les arbres qui étaient bons, je peux représenter par ce type-là, donc l'ensemble de tous les arbres T qui sont bons. Et donc, je peux exactement suivre ce paradoxe-là en considérant cet arbre-là, donc l'arbre qui collecte tous les arbres qui sont bons. Et ça, c'est une version de la théorie, une version paradoxe des arbres en théorie des types, et c'est tout à fait similaire au paradoxe de Russell. Alors, une autre version que je peux considérer aussi, c'est maintenant si je, pour cette version-là, j'ai besoin juste de l'analyse de cas sur ce type de données. Si je permets principe d'induction sur ce type de données, en fait, tous les types sont bien fondés par ce principe d'induction, et donc l'ensemble de tous les arbres va pas pouvoir. Je peux considérer cet ensemble-là, qui est à la fois bien fondé, est égal à un de ces sous-arbres immédiats, donc il ne peut pas être bien fondé. Je peux former en fait une version qui est comme le paradoxe de Burali-Forti sur les ordinaux. Alors, donc ça, c'est une. J'ai trouvé ça intéressant parce qu'en fait, ça montre vraiment intuitivement comment représenter les ensembles en théorie des types. En fait, la notion d'ensemble semble primitive, mais en fait, la notion d'ensemble, c'est une notion très sophistiquée, telle qu'elle est utilisée dans un système ZF. En fait, les ensembles donc, sont comme ces arbres-là, des arbres, mais où je dois considérer les arbres à bisimulation près. Parce qu'en fait, quand je forme un ensemble, donc ça c'est la notation en théorie des ensembles, je collecte ensemble des éléments. D'accord. En fait, par rapport à cette notion concrète, intuitive des arbres, la différence entre théorie des ensembles, c'est que là, cette énumération, je dois oublier dans cette énumération, je dois oublier les permutations des TI et les duplications des TI. Donc en fait, la notion d'ensemble en théorie des types est une notion, et aussi intuitivement, c'est une notion très sophistiquée où j'ai besoin de cette opération où j'oublie l'ordre et j'oublie les duplications. Et donc, quand j'ai regardé cette version du paradoxe de Brun, donc je me suis rendu compte qu'en fait, ce type V des arbres, c'était un cas particulier de ce type W introduit par Martynov en 79. Mais en fait, donc ce type, l'origine, si je regarde l'histoire de comment ce type a été introduit, il a été en fait introduit par Peter Axel, dans ce cas particulier pour l'ensemble des arbres, et c'est cette introduction-là qui a motivé en fait, l'introduction de ce type W. Et ce type était précisément introduit donc, pour représenter les ensembles en théorie des types et les ensembles comme des arbres. Donc c'est ce type-là, donc, je vais réécrire. Donc c'est V. Donc il y a un seul constructeur qui est pour un univers donné. Donc je considère le type de données avec ce type, ce constructeur-là. Alors ce type-là a une histoire intéressante. Donc, il a été introduit d'abord par un étudiant donc, de Peter Axel, mais l'introduction de ce type-là ne venait pas. Pourquoi il a été introduit ? C'était pas pour représenter les arbres en théorie des types ou les ensembles en théorie des types. C'était pour représenter les ordinaux en théorie des types. Donc, si je rappelle donc le type des entiers, le type des ordinaux tel qu'il était introduit par par Hilbert, en fait. Et après introduit par Martynov, c'était que j'ai les constructeurs 0, successeur, et le constructeur limite. Donc en fait, ça je peux le voir comme un flèche ORM, et ça je peux le voir comme ensemble vide flèche ORM. Donc en fait, ce type-là est introduit comme une généralisation. Des ordinaux où au lieu de considérer des branchements qui sont soit 0, 1 ou dénombrables, je considère des arbres avec branchement quelconque. Donc ça c'est une généralisation naturelle du type des ordinaux en théorie des types, où j'ai maintenant des arbres à branchement arbitraire. Et c'est pour ça donc, que cet étudiant de Peter Axel avait introduit ce type V. Et donc c'était introduit pour indexer le procès de représenter les ensembles en théorie des types. Donc comme je l'ai, les ensembles dans la théorie de Zermelo-Frankel donc, sont représentés de la manière suivante, l'intuition d'ailleurs. Donc ça c'est comme les gens motivent la théorie des ensembles, donc c'est qu'on part avec l'ensemble vide, et puis après... On va définir Donc les sous-ensembles de V alpha. Et on va itérer, donc pour un ordinal limite, on va itérer ce processus-là. Donc c'est comme ça l'intuition de ce que c'est qu'un ensemble, donc la version stratifiée des ensembles. Et c'était ça que donc l'étudiant de Peter Axel, Lev Hersha, voulait représenter en théorie des types. Mais donc il a besoin d'une notion d'ordinal. Et pour indexer ce processus-là, il introduisait ce type V, comme ça. Et donc, comme le raconte donc Peter Axel dans ce papier, Peter Axel s'est rendu compte, une fois que la thèse a été finie, en fait, s'est rendu compte qu'en fait, on pouvait directement utiliser ce type V pour représenter les ensembles comme des arbres. Et donc, c'est l'histoire de ce type V. Donc, il y a aussi motivé après le type W. Donc, c'est au lieu de penser aux éléments de V comme des ordinaux généraux, on va voir les éléments de V comme des arbres. Alors, comme je l'ai dit, donc, en théorie des ensembles, il faut considérer les ensembles à permutation et à duplication près. Donc, c'est pour ça. Donc, comment définir si j'ai deux arbres alpha et bêta? Quand est-ce que ces arbres vont être égaux? C'est une définition qui est récursive. Donc ces arbres-là vont être égaux. Si chaque sous-arbre de cet arbre-là est égal à un sous-arbre de cet arbre, et réciproquement. Mais comme la définition d'égalité est récursive, donc c'est cette définition-là qui correspond à la notion de bisimulation qui est considérée donc, en langage de programmation. Et donc ceci capture cette définition-là, capture exactement l'intuition que, dans cette notion, l'ordre et la duplication ne doivent pas jouer un rôle. Et une fois que j'ai défini l'égalité de ces ensembles de manière inductive, je peux définir l'appartenance. Donc dire qu'un arbre appartient à un autre, c'est dire qu'il est égal à un sous-arbre immédiat de cet arbre-là. Mais pour ça, j'ai besoin de la définition d'égalité. Donc là, on voit bien que la notion d'égalité en théorie des ensembles est une notion très sophistiquée, en fait. Cette induction est très, très complexe. Donc l'ensemble vide, je vais faire partir d'une collection d'arbres vides, et je peux définir l'ensemble vide, et je peux définir, si j'ai une liste d'éléments, je peux définir cet ensemble fini comme de cette manière-là. Je peux définir la réunion de deux ensembles, et je vais pouvoir coder l'ensemble oméga, donc en théorie des ensembles. Donc oméga, c'est défini comme cet ensemble-là. On peut coder cette définition-là en théorie des types. Donc on obtient une représentation tout à fait naturelle de la théorie des ensembles en théorie des types. Et l'interprétation des formules donc, peut être faite de manière tout à fait naturelle aussi. Et donc Peter Axel peut alors vérifier donc, que les axiomes d'une version constructive CZF de ZF, qui est strictement plus faible que ZF, est montrable. Donc toutes les traductions de tous ces axiomes sont montrables en théorie des types. Donc on obtient une justification de la théorie des ensembles en théorie des types. Donc pour cette interprétation, donc ce qui est remarquable aussi, c'est qu'on n'a pas besoin de l'égalité en théorie des types. Cette interprétation de la théorie des ensembles n'utilise jamais le type identité de la théorie des types. Donc je trouve personnellement donc cette interprétation montre que la notion de type est plus primitive que la notion d'ensemble. Donc on voit bien ici que donc je peux interpréter les ensembles avec ce type de données, mais que la notion d'ensemble est une notion très sophistiquée où je dois considérer cette relation de bisimulation. Alors comme je ne considère que des arbres bien fondés, si je rajoute ce type de données avec son principe d'induction, cette interprétation justifie naturellement l'axiome de fondation, puisqu'un ensemble est interprété comme un arbre bien fondé. Donc, comme je l'ai dit, donc, on peut voir aussi cette interprétation-là, comme les ensembles peuvent être obtenus par itération de cette opération-là, et donc ça donne aussi une autre motivation pour considérer ce type-là. Donc la motivation, c'est la suivante, c'est que quand je regarde comment représenter les sous-ensembles. Donc si je veux représenter l'opération de sous-ensemble en théorie des types, en fait, donc ça c'est un point sur lequel Peter Hancock insiste, c'est qu'il y a deux manières naturelles. La première manière, ça va être de représenter ça comme un prédicat sur X, donc, le type des propositions est remplacé par un univers. Mais l'autre manière, qui est aussi naturelle, c'est de remplacer ça comme... donc je vais plutôt noter A. C'est de noter ça comme les familles sur A. Donc il y a deux manières assez naturelles en théorie des types de représenter qu'est-ce que c'est qu'un sous-ensemble de A. Donc la première manière, c'est celle-là. La deuxième manière, c'est celle-là, où j'ai dit qu'en fait, un sous-ensemble de A, ça va être donné par une famille d'éléments de A. Et si on utilise cette représentation des sous-ensembles et qu'on veut calculer un point fixe de cette itération-là, on obtient ce type V aussi. Voilà. Donc, en présence d'un type de proposition, cette interprétation a été étudiée donc, par Benjamin Werner dans ce papier-là. Et il a montré, donc, si on ajoute un axiome à la théorie des types, on peut en fait, de cette manière-là, on peut interpréter Zermelo-Frankel en théorie des types. Et donc ça, ça a été utilisé dans le système Lean. Et en fait, le système Lean, donc Mario Carnero, a pu montrer que ce système est probablement équivalent donc à ZFC plus une hiérarchie de cardinaux inaccessibles. Et en fait, donc ça, c'est utilisé aussi pour la formalisation. Donc Mario Carnero avait une formalisation du théorème de Dirichlet, mais aussi théorème des nombres premiers, dans un système, dans le système MetaMath. Et cette formalisation-là, c'était une preuve formelle du théorème de Dirichlet à partir des axiomes de la théorie des ensembles. Alors, comme on a une interprétation des axiomes de la théorie des ensembles dans Lean, en fait, on peut faire une traduction de cette preuve-là dans le système Lean, et de cette manière-là, Mario Carnero a obtenu une preuve du théorème de Dirichlet dans Lean. Donc, d'abord, on l'obtient pour ce codage. Le théorème de Dirichlet, donc c'est sur l'ensemble. En théorie des ensembles, c'est sur cet ensemble oméga. Mais en fait, donc Mario Carnero a pu montrer que si on avait une version du théorème de Dirichlet pour oméga, on va avoir aussi une version pour le type de données entier. Et de cette manière-là, Mario Carnero a obtenu une preuve du théorème de Dirichlet dans Lean. Alors, il y a deux variations de cette interprétation que je voudrais présenter. Donc, la première variation est, je trouve, très élégante. Elle est due à Alexandre Michel. Donc, c'est l'idée qu'au lieu d'utiliser des arbres, en fait, on peut utiliser des graphes pointés. Donc, un ensemble va être représenté par un graphe pointé. Donc, intuitivement, la relation, cette relation-là, représente la relation d'appartenance. Et donc, ce que Michel a remarqué, c'est qu'on peut définir imprédicativement cette relation de bisimulation comme plus grand point fixe. Donc, on va pouvoir définir de manière imprédicative que deux graphes pointés représentent le même ensemble. Mais de cette manière-là, on va obtenir une interprétation de la théorie des ensembles où les ensembles ne sont pas nécessairement bien fondés. Donc, on va obtenir une représentation de la théorie des ensembles qui avait été en fait étudié par Peter Axel, où on se permet un ensemble X est égal à l'ensemble qui a un seul élément X. Donc ça, c'est représenté par un graphe pointé qui est de cette manière-là. Donc ça, c'est une autre représentation de la théorie des ensembles en théorie des types, où on représente un ensemble et représenté par un graphe pointé. Mais là aussi, donc on voit que la relation d'égalité est tout à fait non trivial, c'est la relation de bisimulation, donc qui peut être définie de manière imprédicative comme étant la réunion de toutes les relations qui sont des relations de bisimulation. Et on obtient de cette manière un modèle de la théorie des ensembles, non nécessairement bien fondé. Mais donc l'avantage de cette représentation-là, c'est qu'on n'a pas besoin de type de données. On n'a pas besoin d'introduire un type de données comme le type des arbres. Cette interprétation-là peut être faite dans le système seulement avec le produit dépendant et un univers des propositions imprédicatives. Et de cette manière-là, donc Alexandre Michel construit encore une nouvelle preuve du fait qu'un système avec un type de tous les types est contradictoire, et qui est une preuve très naturelle. Donc c'est comme si on a un type de tous les types. Avec ce codage, on va avoir un ensemble de tous les ensembles et on peut exactement suivre l'argument de Russell. Donc on peut définir un graphe universel si on a un type de tous les types. Donc, c'est exactement le même résultat que le résultat de Girard, qui utilisait juste un système de type avec un type de tous les types et le produit dépendant. Et il y a une autre application de cette traduction-là, c'est de donner la force logique d'un système de la théorie des types avec un type des propositions et trois univers. Et le produit dépendant, donc là, théorème d'Alexandre Michel, c'est que cette théorie des types-là est plus forte que la théorie des ensembles de Zermelo. Donc Alexandre Michel a pu montrer qu'on peut interpréter la théorie des ensembles de Zermelo dans ce système de la théorie des types. Ça a rapproché en fait d'une traduction qui existait déjà pour la théorie des topos, où elle représentait les ensembles comme des graphes, mais là c'était des relations bien fondées. Donc ça, c'est une version non bien fondée de cette interprétation. Très bien. Et maintenant, donc, je voudrais terminer par la deuxième variation sur cette interprétation des ensembles en théorie des types. Et donc, ça va être une sorte de motivation pour la deuxième partie de ce cours, qui est qu'est-ce qui se passe quand on rajoute l'axiome d'univalence à la théorie des types. Donc, je voudrais terminer en expliquant ce que devient cette interprétation des ensembles comme ordre bien fondé dans une version de la théorie des types avec type identité et axiome d'univalence. Et là, c'est quelque chose que je trouve remarquable et qui montre en fait le caractère remarquable de l'axiome d'univalence aussi. Donc là, comme je l'ai dit, pour avoir cette interprétation-là, Peter Axel n'avait pas besoin de le type égalité. Mais il a besoin de définir cette relation de bisimulation qui est une relation très complexe. Alors qu'est-ce qui se passe si on se passe dans un cadre univalent ? Donc là, dans un cadre univalent, donc l'identité qui vérifie le principe d'univalence, et les types sont stratifiés suivant la complexité de l'égalité. Donc là, si on regarde le type des arbres, donc ce type des arbres V, donc comme il est obtenu de cette manière-là, V, en fait, donc U va avoir une égalité très compliquée. Donc on peut montrer que U n'est pas un n-type pour chaque n. Donc n, ça c'est la stratification introduite par Bobrovsky. Et en fait le type V aussi va être un type avec une égalité très compliquée. Donc V n'est pas un n-type pour chaque n. Donc V, a priori, il y a un problème si je veux utiliser V pour représenter les ensembles. Donc on peut introduire le type des propositions. Et ce type des propositions est un ensemble. Alors, donc ce qui se passe dans ce cadre, donc c'est ce que j'ai dit qui était derrière les deux manières de représenter une propriété sur A, donc une structure sur A. Donc ce qui est remarquable en théorie des types avec l'univalence, c'est que maintenant, c'est un théorème que ces deux représentations-là sont équivalentes. Donc ça, c'était un problème en théorie des types. On avait ces deux manières de représenter qu'est-ce que c'était qu'une structure sur A. Et là, avec l'univalence, ces deux manières-là vont être équivalentes. Et donc on peut raffiner ça en disant, donc maintenant on a une notion de proposition. Donc on peut raffiner cette équivalence en disant que les propriétés sur A vont être équivalentes au plongement dans A. Donc ça, c'est, on peut définir qu'est-ce que c'est qu'un plongement dans une fois qu'on a introduit cette égalité-là, et on va voir cette équivalence-là. Et donc, ça suggère de revenir à cette définition-là. Donc là, il y avait quelque chose de pas très naturel, c'était que je voulais mettre ensemble des arbres, mais pour mettre ensemble des arbres, j'utilisais cette famille-là. Et il fallait dire que cette famille n'avait pas de duplication, et je ne devais pas tenir compte de l'ordre dans lequel on définit cette notion-là. Et donc ça va être représenté de cette manière-là. je vais dire qu'est-ce que c'est qu'un ensemble. Donc maintenant, dans ce type V, je vais définir qu'est-ce que c'est qu'un ensemble en définissant cette notion-là, qu'est-ce que c'est qu'un ensemble itératif sur V. Je vais dire que la fonction f, donc de x dans V, est un plongement. Donc ça, c'est une notion qu'on peut définir en théorie des types, qui dit exactement, donc ça, c'est une énumération de A, intuitivement, c'est une énumération de A sans duplication. Donc c'est... Et donc, ce qui est remarquable, c'est que l'égalité sur cette... si je regarde deux plongements comme ça, sur A, donc maintenant j'ai donc XF, si j'ai deux éléments XF et YG dans ce type-là, ils vont être égales. L'égalité que j'ai en théorie des types va me dire exactement que Y est une permutation de X. Et ça, ça vient automatiquement de comment se passe l'égalité une fois que j'ai introduit l'univalence. Donc là, c'est une idée très, très élégante, donc par aucun Gilles Thurid, introduit dans ce papier-là, donc qui a reformulé ce qui se passe pour cette interprétation de Peter Axel en théorie des types avec univalence. Et là, il peut dire, donc, dans ce cadre-là, on peut dire exactement que je vais considérer seulement les énumérations qui n'ont pas de duplication, et le fait l'égalité se passe bien en théorie des types et univalence va juste me produire une égalité qui est équivalente à la bisimulation. Je ne vais pas avoir à considérer cette notion de permutation. Donc ça, c'est quelque chose qui a été formalisé, qui est formalisé dans le système AGDA. Et en fait, donc, une fois qu'on a une formulation de la théorie des ensembles en théorie des types, on peut essayer donc, de formaliser aussi le modèle ensembliste en théorie des types. Et de manière donc, que je trouve intéressante, la vérification de la sémantique du sigma, de cette opération sigma, qui semble très très simple, a des problèmes techniques. Donc, elle devient tellement complexe qu'ils n'ont pas été capables de vérifier formellement la correction de cette opération-là, dans cette représentation. Donc ça, je voulais terminer là-dessus, parce que c'est un très bon exemple de ce qui se passe avec l'action d'univalence. Donc ça permet de revisiter des constructions de théorie des types. Donc cette construction-là était très très élégante de Peter Axel, mais on avait besoin d'introduire cette notion de bisimulation sur les arbres. Et donc quand je voulais représenter les arbres, les ensembles en théorie des types, je devais considérer non seulement ce type V, mais aussi le type V muni de cette relation de bisimulation. D'accord. Alors maintenant, donc, avec l'univalence, de manière un peu magique, chaque type est muni d'une relation d'égalité, et avec l'action d'univalence, cette égalité va devenir l'égalité qu'on attend sur le type A. Donc de manière magique, sur ce type V, V0, sans avoir à définir une bisimulation, je vais obtenir une égalité qui est exactement l'égalité que je veux pour représenter les ensembles en théorie des types. Donc ça, c'est une motivation pour la deuxième partie du cours qui est un peu différente des motivations usuelles, où les motivations usuelles, donc, c'est pour représenter des types qui sont plus complexes que des ensembles. Ici, on doit lutter en théorie des types avec univalence, on doit lutter pour obtenir un type qui est un ensemble. Donc on peut montrer que ce type V0 qui représente les ensembles est lui-même un ensemble au sens de la théorie des types. Et donc ça termine ces trois représentations possibles de la théorie des ensembles en théorie des types. Et ça termine donc la première partie de mon cours. Et voilà, merci.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.